Alors aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 6, chant 1, Les voies du destin, traduction en français de Satprem. Ô mortel, toi qui te plains de la mort et du destin, n'accuse personne du mal que toi-même as appelé. Ce monde tourmenté, c'est toi qui l'as choisi pour demeure. Toi-même en es l'auteur de ta douleur. Jadis, dans l'immortelle immensité du moi, dans la vastitude de vérité, de conscience et de lumière, l'âme a regardé dehors, du haut de sa félicité. Elle sentait l'interminable bonheur de l'esprit. Elle se savait sans mort, sans temps, sans borne, une. Elle voyait l'éternel, vivait dans l'infini. Puis, curieuse, du nombre jeté par la vérité, elle s'étendue vers quelque austérité du moi. Elle était tirée par un visage inconnu qui scrutait à travers la nuit. Elle pressentait une infinitude négative, un vide grandiose dont l'immense excès imitant Dieu et le temps perpétuel offrait une base pour une naissance adverse de la nature, dans l'inconscience rigide et dure de la matière, et un abri pour la brillance d'une âme transitoire qui allume la naissance et la mort et la vie ignorante. Un mental a surgi qui regardait fixément le rien, jusqu'à ce que se forment des images de ce qui pourrait ne jamais être. Il logeait le contraire de tout ce qui est. Un néant est apparu dans l'énorme cause scellée de l'existence, son support muet dans un infini vide, dont les abîmes doivent engloutir l'esprit. Une nature enténébrée vivait là et gardait la semence de l'esprit caché qui feignait de ne pas être. La conscience éternelle devenait la demeure de quelque inconscient tout-puissant vidé de son âme. Nul ne respirait plus l'air natif de l'esprit. Étrangère dans un univers inanimé, la félicité était l'incident d'une heure mortelle, comme tirée par la grandeur du vide. Fascinée, l'âme s'est penchée sur l'abîme. Elle avait soif de l'aventure de l'ignorance et de la merveille et de la surprise de l'inconnu et des possibilités sans fin qui s'y cachaient dans les entrailles du chaos et dans le gouffre du rien ou qui guettaient au fond des yeux insondés du hasard. Elle était lasse de son bonheur invariable. Elle a tourné le dos à l'immortalité. Elle était tirée par l'appel du risque et le charme du danger. Elle aspirait au pathos du chagrin, au drame de la douleur, au péril de la perdition, à l'échappée belle par un fil saignant. La musique de la ruine et son ivresse et sa catastrophe, la saveur de la pitié, les jeux du hasard, de l'amour, et la passion et la face ambiguë du destin. Un monde de dures tentatives et de difficiles labeurs, et de batailles au bord périlleux de l'anéantissement. Un fracas de force, une vaste incertitude. La joie de la création dans le rien. D'étranges rencontres sur les routes de l'ignorance et la compagnie d'âmes à demi connues, où la grandeur solitaire et la force, toutes seules d'êtres séparés, qui conquièrent son monde. Tout l'appelait à descendre de son éternité trop sûre. Une énorme descente commençait. Une chute gigantesque. Car ce que l'esprit voit crée une vérité. Et ce que l'âme imagine devient un monde. Une pensée jaillie de l'éternel peut devenir un mouvement cyclique dans le temps éternel. Le silence de conséquences cosmiques est l'itinéraire des dieux. Ainsi est venu, né d'un terrible choix aveugle, ce grand monde perplexe et mécontent. Ce repère d'ignorance, cette maison de douleur. Là se sont plantés les camps du désir, le quartier général du malheur. Un immense déguisement cache la joie de l'éternel. Alors, Aswapati répondit au voyant. L'esprit, donc, est-il gouverné par un monde extérieur? Ô voyant, n'y a-t-il pas un remède dedans? Mais qu'est-ce que le destin, sinon la volonté de l'esprit? Longtemps plus tard accompli par la force cosmique. Je croyais qu'une grande puissance était venue avec sa vitrie. Cette puissance n'est-elle pas le haut égal du destin? Mais Narad répondit en couvrant la vérité par une vérité. Ô Aswapati, les chemins semblent aller au hasard. Sur des rives où vos pas s'égarent au cours, à des heures fortuites ou à un moment des dieux, et pourtant le moindre de faux pas est prévu d'en haut. Infailliblement, les tournants de la vie sont tracés et suivent le fleuve du temps à travers l'inconnu. Ils sont conduits par un fil que gardent les calmes immortels. Ce hiéroglyphe annonciateur des aurores à venir exprime en symbole un sens plus sublime que la pensée scellée ne le saisit. Mais comment ma voix convaincrait-elle le mental de la terre de ce haut scénario? Plus sage, l'amour des cieux rejette la prière des mortels. Inaveuglés par le souffle de leurs désirs, inobscurcis par les brumes de la peur et de l'espoir, ils cheminent au-dessus de la lutte de l'amour contre la mort. Ils gardent pour Savitri son privilège de douleur. Dans l'âme de ta fille, une grandeur réside. Qui peut la transformer elle-même et le monde autour? Mais pour aller à son but, elle doit traverser des rocs de souffrance. Bien qu'elle ait été bâtie comme une coupe de nectar divin et cherche l'air céleste dont elle fut faite, elle aussi doit partager la nécessité humaine du chagrin et transmuer en douleur toute sa cause de joie. Le mental des mortels est conduit par des mots. Sa vue s'enferme derrière des murs de pensée et ne regarde dehors que par des portes à peine ouvertes. Il découpe la vérité sans borne en petits bouts de ciel et prend chaque bout pour tous les cieux. Il regarde avec effarement la possibilité infinie et donne le nom de hasard à la fluidité du vaste. Il voit de lents résultats d'une force de toute sagesse qui trace une suite de pas et de séquences dans le temps sans fin. Mais ne sachant les relier, il imagine une chaîne insensée ou la main morte d'une froide nécessité. Il ne répond pas au cœur mystique de la mer. Il n'entend pas le battement ardent de sa poitrine. Seul, il sent la carcasse rigide et glacée d'une loi sans vie. Cette éternelle volonté hors du temps qui s'exécute dans le temps à la cadence libre et absolue de la vérité cosmique. Il pense que c'est une machine morte ou un destin inconscient. Les formules d'un magicien ont fait les lois de la matière. En tant qu'elles durent, tout est lié par ces lois. Mais le consentement de l'esprit est nécessaire pour chaque acte. Et la liberté marche du même pas que cette loi. Tout peut changer ici si le magicien le choisit. Si la volonté humaine pouvait devenir une avec celle de Dieu, si la pensée humaine pouvait se faire l'écho des pensées de Dieu, l'homme pourrait être omniscient et tout-puissant. Mais maintenant, il marche dans le rayon ambigu de la nature. Et pourtant, le mental de l'homme peut recevoir la lumière de Dieu. La force de l'homme peut être mue par la force de Dieu. Alors, il est le miracle qui fait des miracles, car c'est ainsi seulement qu'il peut être le roi de la nature. C'est décrété et Satyavan doit mourir. L'heure est fixée, le coup fatal est choisi. Ce qui sera d'autre est écrit dans l'âme de Savitri. mais jusqu'à ce que l'heure révèle le fatidique scénario, l'écrit à temps illisible et muet. Le destin est la vérité qui s'exécute dans l'ignorance. Ô roi, ton destin est transaction faite à chaque heure entre la nature et ton âme avec Dieu pour arbitre prévoyant. Le destin est un solde inscrit dans le livre de la destinée. L'homme peut accepter son destin, il peut refuser. Même si l'un maintient l'invisible décret, il inscrit son refus, ton refus, sur la page de crédit. Car le sort fatal n'est pas une fin, pas un sceau mystique. Ressuscité du tragique accident de la vie, ressuscité de la torture du corps et de la mort, l'esprit se relève plus fort de sa défaite. À chaque chute, ses ailes divines grandissent plus large. Ses splendides échecs se somment par une victoire. Ô homme, les circonstances que tu rencontres sur ton chemin, bien qu'elles frappent ton corps et ton âme de joie et de chagrin, ne sont pas ton destin. Elles te touchent un moment et passent. Même la mort ne peut pas trancher la marche de ton esprit. Ton but, la route que tu choisis, sont ton destin. Jetant tes pensées, ton cœur, ton travail sur l'autel, ton destin est un long sacrifice aux dieux, jusqu'à ce qu'ils t'ouvrent ton moi secret et te font un avec Dieu qui t'habite. Ô âme intruse dans l'ignorance de la nature, voyageuse armée vers les sommets sublimes que tu ne vois pas, le destin de ton esprit est une bataille et une marche sans répit contre d'invisibles pouvoirs adverses. Un passage de la matière au moi éternel. Aventurière à travers le temps, aveugle et imprévoyant, à marche forcée à travers une longue suite de vie, elle pousse son fer de lance à travers les siècles, dans la poussière et la fange des plaines terrestres, sur les frontières innombrablement gardées, des fronts dangereux et de terribles assauts en de lentes retraites blessantes, ou défendant le bastion de l'idéal en ruine, ou luttant contre toute chance en poste solitaire, ou campé dans la nuit près des feux de bivouac, attendant la lente sonnerie de l'aube, par la joie ineffable se fait sentir. Enfin, il se rappelle son moi oublié. Il a retrouvé le ciel d'où il était tombé. Longuement son indomptable ligne de front force les pages de l'ignorance, pressant les dernières limites connue de la nature, explorant le formidable inconnu, par-delà les repères des choses visibles. Il traverse une couche d'air miraculeuse, grimpe le sommet muet du monde et se tient debout enfin sur la splendeur des pics de Dieu. En vain tu t'affliges que Satyavan doive mourir. Sa mort est le commencement d'une vie plus large et plus grande. La mort est l'opportunité de l'esprit. Une vaste intention a rapproché les deux âmes, et l'amour et la mort conspirent à une fin grandiose. En vérité, taillé dans le danger et la douleur, viendra la félicité du ciel. L'événement imprévu du temps, le plan secret de Dieu, ce monde n'a pas été bâti au hasard avec des briques de chance. L'architecte de la destinée n'est pas un Dieu aveugle. Un pouvoir conscient a tracé le plan de la vie. Il y a un sens dans chaque tournant, dans chaque ligne, totale et haute, et l'architecture. Bâtie par des maçons renommés ou jamais nommés, dont les mains sans savoir obéissent à l'au-delà. Et parmi les maîtres bâtisseurs, Savitri est là. Reine, ne tente plus de changer la volonté secrète. Les accidents du temps sont des marches dans son vaste plan. Que tes faibles et brèves larmes humaines ne viennent pas obscurcir les moments insondables d'un cœur qui sait que sa volonté solitaire et celle de Dieu sont une. Ce cœur peut embrasser sa destinée hostile. Il garde son chagrin et fait face à la mort, affrontant seul et armé le destin adverse, debout et à part au milieu de cet énorme monde, dans la grandeur de la silencieuse volonté de son esprit, dans la passion du sacrifice de son âme, sa force solitaire fait face à l'univers. Elle affronte le destin et ne demande pas l'aide des hommes ni des dieux. Parfois, une seule vie est changée et chargée de la destinée de la terre. Je me permets de répéter. Parfois, une seule vie est chargée de la destinée de la terre. Elle n'appelle pas au secours les pouvoirs prisonniers du temps. Toute seule, elle est égale à sa tâche puissante. N'intervient pas dans le combat trop grand pour toi. Une lutte trop profonde pour qu'une pensée mortelle puisse la consoler. Son défi aux limites rigides de cette nature, quand l'âme nue de ses robes confronte l'infini, ce leitmotiv trop immense d'une volonté mortelle, solitaire, qui arpente le silence de l'éternité. Comme une étoile sans compagnon qui va par les cieux, sans s'étonner des immensités de l'espace, voyageuse des infinitudes par sa propre lumière, les grands sont plus forts quand ils marchent seuls. La grandeur d'être est leur force donnée par Dieu, un rayon de la solitude lumineuse du moi est leur guide, l'âme qui peut vivre seule avec elle-même. Rencontre Dieu, son univers solitaire et leur rendez-vous. Un jour viendra peut-être où elle devra rester seule et sans aide, au bord dangereux de la ruine du monde et de la sienne, portant l'avenir de la terre sur sa poitrine solitaire, portant l'espoir humain dans le cœur abandonné pour conquérir ou échouer sur une dernière crête désespérée, seule avec la mort et proche du dernier bord de l'extinction. Unique grandeur dans cette terrible scène, elle doit traverser seule un périlleux pont du temps et toucher un apex de la destinée du monde où tout est gagné pour l'homme ou perdu. Isolée, désertée dans ce formidable silence d'une heure décisive dans le destin du monde, dans cette grimpée de son âme par-delà le temps mortel, quand elle se tient seule avec la mort ou seule avec Dieu, à part sur un abîme de silence désespéré, seule avec son moi et la mort, et la destinée, comme sur quelque seuil entre le temps et le sans-temps, quand l'être doit finir ou la vie rebâtir sa base, seule elle doit conquérir ou seule périr. Nulle aide humaine ne peut l'atteindre en cette heure. Nul dieu armé ne vient resplendissant à ses côtés. Ne crie pas vers les cieux, car elle seule peut sauver. La force silencieuse pour cela, ici en mission, en Savitrie, la volonté consciente a pris une forme humaine. Elle seule peut se sauver elle-même et sauver le monde. Ô reine, retire-toi de cette scène prodigieuse. Point ne t'interpose entre elle et l'heure de son destin. Son heure doit venir et nulle ne peut intervenir. Ne prétends pas la détourner de sa tâche envoyée des cieux. N'essaye pas de la sauver de sa propre haute volonté. Tu n'as aucune place dans ce terrible combat. Ton amour et tes soupirs ne sont pas arbitres là. Laisse le destin du monde et le sien la seule garde de Dieu. Même s'il semble l'abandonner à ses forces, même quand tout lâche et tombe et voit la faim et le cœur défaille, et seule la mort et la nuit sont là. Sa force donnée par Dieu peut lutter contre la ruine. Même sur un dernier bord, où seule la mort semble proche, et nulle force humaine ne peut aider ni empêcher. Point ne t'avise d'intercéder près de la volonté cachée. Ne t'interpose pas entre son esprit et la force de son esprit. Laisse-la à la grandeur de son moi et au destin. Il dit et se tut et quitta la scène terrestre. Loin de la lutte et des souffrances, sur notre globe il retournait à son lointain et bienheureux pays. Telle une flèche étincelante pointée droit vers les cieux, le corps lumineux du voyant éternel perçait la gloire pourpre du midi et disparut comme une étoile fuyante, évanoui dans la lumière de l'au-delà, mais encore un cri résonnait dans l'infini. Et encore pour l'âme qui écoute sur cette terre mortelle, une haute voix lointaine, impérissable, chantait l'hymne de l'amour éternel. Fin du chant 2, fin du livre 6, qui s'appelle « Les voies du destin ». Mais le titre de ce chapitre, c'est le chant 2, « Les voies du destin et le pourquoi de la douleur ». Ce dernier chant revu par Sri Aurobindo avant son départ en 1950. Je remercie infiniment pour cette lecture, Sri Aurobindo et douce mère, Ganga Lakshmi.